Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France Culture pour les conférences du Carême protestant. Cette année, nous serons en compagnie de Christine Renoir, pasteur de l'Église protestante unie de France et aumônier coordinateur à la Fondation Diaconesse de Reuilly. Elle nous propose de cheminer au fil des psaumes avec dans ce sixième volet une réflexion intitulée « Marcher dans la confiance ».
Au cours des précédentes conférences, vous avez évoqué des sentiments tels que la colère, la révolte, le désespoir, la culpabilité, la joie, et maintenant la confiance. Des psaumes sont-ils particulièrement attachés au thème de la confiance ?
Certains psaumes manifestent particulièrement la confiance, c'est vrai. Mais au fond, parler de la confiance, c'est parler de tous les psaumes. Car sans confiance, il n'y aurait pas de prière. La prière est un acte de confiance, une conviction intime qu'un autre m'entend. Les psaumes ne sont pas des traités de théologie, des spéculations sur Dieu, ils sont des prières. Et la confiance irrigue donc tous les psaumes, elle est la condition même de leur rédaction. Ainsi, les psaumes de supplication commencent toujours par une louange, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qu'est Dieu pour nous. Avant même d'exposer le motif de la demande, c'est la confiance qu'ils expriment. Écoutons le psaume 7, au verset 2.
« Seigneur, mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi. »
Le bibliste catholique Paul Beauchamp, dans son superbe ouvrage « Psaume nuit et jour », remarque qu'il y a dans ce seul verset pas moins de quatre phases. Premièrement, l'énoncé du nom « Seigneur, mon Dieu ». Deuxièmement, la louange « Tu es mon refuge ». Troisièmement, la description du mal qui motive la demande « On me poursuit ». Et quatrièmement, la requête proprement dite « Sauve-moi ». Paul Beauchamp affirme, je cite, « Par le déroulement de ce processus, la demande est contenue au lieu d'être précipitée. La demande proprement dite a déjà dû laisser passer trois éléments avant elle. Pour cela, il a déjà fallu que le suppliant reprenne sa respiration. Il s'est déjà comme détaché de sa propre douleur. Il annonce lui-même sa libération. » Fin de citation. Nous voyons par cet exemple que la confiance est première. Elle permet l'expression de la supplication et constitue une première marche sur un chemin de libération et de vie. Et moi, lectrice d'un psaume aujourd'hui, je sais qu'un auteur très ancien l'a écrit pour témoigner du fait que ses prières ne sont pas restées sans réponse. Ainsi donc, avec les mots qu'il m'offre, c'est aussi sa confiance qu'il me partage. La confiance est donc à la fois une condition de possibilité du psaume, et aussi ce que le psaume me transmet de plus précieux peut-être.
Quelle forme prend donc cette confiance dans les psaumes ? Comment se manifeste-t-elle ?
La confiance peut naître de l'expérience personnelle d'avoir traversé une épreuve. Ce sera l'objet de notre première réflexion avec l'étude du psaume 23. Elle se nourrit aussi de la mémoire des pères. Nous verrons cela en nous mettant à l'écoute du psaume 77. Et ensuite, elle colore toute perception de notre existence, comme le montre le psaume 90. Le psaume auquel on pense d'emblée à propos de la confiance, c'est sans doute le psaume 23.
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.
D'abord, il y a cette affirmation au premier verset : Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela n'a rien d'une image un peu mièvre, à la tonalité bucolique. Le berger, c'est la figure la plus protectrice qu'on puisse imaginer, surtout dans le Proche-Orient ancien où la survie du troupeau dépend du berger, qui connaît les points d'eau, qui sait déjouer les pièges du désert, qui s'expose lui-même dans sa personne pour défendre ses bêtes. Faire confiance à un berger, c'est un peu comme suivre un guide de haute montagne. C'est lui qui indique le chemin le plus sûr, qui repère les prises solides dans la roche. Une fois que j'ai choisi de le suivre, je lui remets ma vie en quelque sorte. Mais cela est possible parce qu'il s'engage lui aussi sur ce sentier escarpé. Et plus encore, il m'y précède. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, dira Jésus. Lui confier ma vie est possible parce qu'il donne la sienne pour moi. Il est donc important que cette nomination de Dieu soit placée en tête du psaume. C'est elle qui commande tout. Elle est un élément important de la prière, un préalable indispensable. La prière est toujours adressée à un « tu » que je dois pouvoir nommer. Le nom de Dieu est aussi souvent suivi de synonymes. Paul Beauchamp écrit « L'énumération de nombreux titres de l'interlocuteur est, selon les cas, un plaidoyer ou une caresse de mots. C'est déjà un signe d'amour et de louange. » Cette énumération peut atteindre l'ampleur de ces versets du psaume 18.
Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, mon rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire.
Et Paul Beauchamp ajoute ici le pronom personnel « mon » ou « ma » dans sa simplicité, cache un secret comparable à celui du nom. Tout le monde comprend qu'il est un terme d'amour. Mais revenons au psaume 23. Si la confiance est en tête, avec l'affirmation de foi « Le Seigneur est mon berger », ce psaume n'est pas pour autant la tranquille assurance d'un individu pour lequel la vie aurait été particulièrement clémente. On peut penser que c'est en fait l'expression de reconnaissance de quelqu'un qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort et qui en est sorti vivant. Je pense à l'écrivain Christian Bobin qui dit « Je n'aime que les livres dont les pages sont imbibées de ciel bleu, de ce bleu qui a fait l'épreuve de la mort. Si mes phrases sourient, c'est parce qu'elles sortent du noir. » La confiance est née de l'épreuve traversée, et elle colore ensuite la vie tout entière. Dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est témoigner d'un salut vécu, et c'est aussi affermir son cœur en vue des traversées à venir. La deuxième partie du psaume, qui abandonne l'image d'un Dieu berger pour se centrer sur l'image d'un Dieu qui se fait notre hôte, développe d'ailleurs l'idée que la proximité du Seigneur ne saurait se démentir.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours.
On s'étonne parfois de la juxtaposition de ces deux métaphores, celle du berger et celle de l'hôte, qui paraissent n'avoir pas grand-chose en commun. Il me semble pourtant que la seconde complète admirablement la première, au sens où elle l'inscrit dans la durée. l'huile qui ruisselle et la coupe qui déborde symbolisent toutes deux la surabondance des bienfaits de Dieu, qui ne se tarira jamais. Ainsi que le confirme la dernière affirmation du psalmiste « Je reviendrai à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». Ainsi, ce psaume tisse finement le passé, le présent et l'avenir. Dieu est présent au moment de l'épreuve, tel un berger qui guide et qui protège. Il offre aussi un bonheur qui ne connaîtra pas de fin.
Vous évoquiez aussi comme fondement de cette confiance l'expérience des pères dans la foi. Est-ce alors en rapport avec cette temporalité complexe dont vous venez de parler ?
Oui, la confiance s'enracine dans le passé, à un double titre. Elle est possible non seulement parce que le psalmiste a fait l'expérience du salut à titre personnel, mais encore parce que toute prière dans la Bible hébraïque est aussi ancrée dans une mémoire collective. L'individu peut souffrir de l'isolement, de la mise à l'écart qu'entraîne une maladie, par exemple. Il n'en demeure pas moins fils d'un peuple avec lequel Dieu a conclu une alliance. Un Dieu dont l'une des caractéristiques principales est la fidélité. L'alliance, c'est un engagement. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple », affirme Dieu. Toute prière dans la Bible s'adresse à ce Dieu sur lequel on peut compter. C'est d'ailleurs le sens du mot « Amen ». C'est solide, ça tient bon. Mais le rapport au passé est complexe néanmoins, car la fidélité de Dieu est parfois mise en question lors d'une épreuve. Un sentiment d'abandon peut naître de l'écart entre ce qui était et ce qui est. Si j'ai toujours vécu en paix, en bonne santé, dans l'harmonie, je me demande parfois avec angoisse pourquoi cette épreuve. Dieu ne me protège-t-il plus, lui qui était si bienveillant envers moi? Qu'ai-je fait, ô Seigneur, pour mériter son courroux? Ainsi, au psaume 77, l'auteur se demande si la confiance n'a pas été rompue.
Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me rappelle mon refrain, mon cœur y revient et mon esprit s'interroge. Le Seigneur va-t-il rejeter pour toujours? Ne sera-t-il plus jamais favorable? Sa fidélité a-t-elle tout à fait disparu? La parole s'est-elle tue pour des siècles? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? De colère a-t-il fermé son cœur? Je le dis, mon mal vient de là. La droite du Très-Haut a changé.
La cause de son inquiétude, ce qui produit sa souffrance même, c'est qu'il lui semble que l'attitude du Seigneur à son égard a changé. C'est cela qui le mine. L'écart entre un passé heureux et un présent difficile peut être en soi une cause de souffrance. Nous le constatons nous-mêmes, nous évaluons souvent notre vie présente à l'aune de ce que nous avons perdu. Telle personne regrettera le temps où elle pouvait marcher, courir sans problème, alors qu'elle est maintenant clouée dans un fauteuil. Tel autre s'attristera de voir sa beauté envolée, tout simplement. Et l'évocation du bonheur simple et tranquille, des jours où les enfants étaient encore à la maison, peut porter avec elle une immense nostalgie. Et ces souvenirs nous masquent parfois ce que la vie nous offre encore. Ainsi, le psalmiste fait cette constatation cruelle d'un revirement soudain de Dieu à son égard. et sa conclusion est sans appel. La droite du Très-Haut a changé. Mais l'auteur n'en reste pas là. Il se remémore ensuite les grands moments de l'histoire sainte, et en particulier la traversée de la mer, qui permit au peuple hébreu de fuir hors d'Égypte.
Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Par ta vigueur, tu as délivré ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Ô Dieu, quand les eaux t'ont vu, elles ont été prises de peur et bouleversées jusqu'en leur profondeur. Dans la mer, tu fis ton chemin, ton passage dans les eaux profondes, et nul n'a pu connaître tes traces.
Le psalmiste n'est pas dans l'insouciance d'un ciel d'été. Cette insouciance, il l'a perdue, le jour où des nuages se sont amoncelés dans le ciel. Il n'est pas insouciant, mais il est confiant. Et même si les traces de Dieu ont disparu, comme il le reconnaît, il sait qu'il est toujours possible de traverser les eaux avec l'aide du Seigneur. Son père lui en a transmis le récit 1000 fois répété, récité à chaque Pâques. Et ce que lui nous laisse en héritage avec ce psaume, c'est sa confiance en ce récit et le témoignage que ses paroles l'ont aidé à vivre. Il nous faut, dit Paul Beauchamp, non seulement la parole des pères, mais aussi le cri des fils. Qui retrouvera le chemin d'Israël, le chemin de Dieu, une fois refermés les flots ? Demande encore ce bibliste. L'Exode, dit-il, est d'hier. La mer est d'hier et d'aujourd'hui, la même. Et cette mer dangereuse d'aujourd'hui est le chemin de toujours pour le Dieu d'Israël.
Mais le psaume 13 évoque aussi la possibilité que le Seigneur nous oublie.
En effet, écoutons-le.
Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand dois-je porter des soucis dans mon âme, des chagrins chaque jour dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu.
L'objet de la lamentation de cet homme, c'est que le Seigneur l'oublie. Et cela non seulement une fois, mais sans cesse. Et il ose en faire l'objet de sa prière. Dans une magnifique liberté de ton, la prière commence comme un reproche, une mise en demeure adressée à Dieu pour qu'il s'explique. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Le psalmiste a l'impression que le Seigneur se retire, volontairement. Mais ce psaume est tout autant supplication que mise en demeure, puisque l'auteur dit aussi « Regarde, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu ». On pense à Job, qui convoque son Dieu à entrer en procès avec lui. Ce sont des hommes qui ne lâchent rien. Ils n'ont pas une foi tiède, prompte au renoncement. Et au fond, comme le dit Paul Ricoeur, l'accusation contre Dieu est ici l'impatience de l'espérance.
Alors pourrait-on dire la même chose du cri poignant du psaume 22 « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
À propos de cette parole, Christian Bobin dit que c'est la plus amoureuse qui soit. Elle est, dit-il, le cœur de l'amour. Sa flamme qui tremble se couche et ne s'éteint pas. Elle est aussi bien la seule preuve de l'existence de Dieu. On ne s'adresse pas ainsi au néant. On ne fait pas de reproches au vide.
Mais la confiance n'est-elle pas une attitude un peu naïve? N'est-ce pas cette facilité de ceux qui ne veulent pas voir les difficultés de la vie?
Alors la confiance n'exclut pas la lucidité. Le psaume 90 en est un bon exemple. Il développe une méditation sur la brièveté de la vie, le caractère éphémère de l'être humain. Mais avant cela, la confiance est posée comme un préalable. En une affirmation première, un premier verset qui nomme Dieu, « Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri. » Et c'est dans cette attitude de confiance en Dieu que le sens de la vie pourra être reçu. Écoutons quelques versets de ce psaume 90.
Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés. Ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée.
Tu fais retourner l'homme à la poussière, dit le psaume. Et le terme employé ici pour parler de l'homme est « Enosh », qui désigne l'homme dans sa fragilité. Comme aussi, au psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Le psaume 90 pleure la vie qui s'évanouit comme un songe au matin, qui fleurit à l'aube, mais le soir est fanée. Ici, nous pensons tous sans doute au poème bien connu de Ronsard.
« Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. »
Mais au psaume 90, il est question d'apprendre, dans la sagesse du Seigneur, la vraie mesure de nos jours.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu.
Mais comment comprendre cette expression « apprends-nous la vraie mesure de nos jours » ?
Littéralement, le texte dit « apprends-nous à compter nos jours ». Alors, attardons-nous un moment sur ce verbe « compter ». Il y a différentes façons de compter les jours. Tout d'abord, lorsque nous disons que nos jours sont comptés, cela sous-entend que notre vie n'est pas infinie, mais limitée. Le verbe « compter » est proche alors de « décompter ». On pourrait faire une sorte de compte à rebours en partant de la fin, du terme de notre vie. Et compter le temps qu'il nous reste jette nécessairement une ombre de tristesse sur ce temps. Chaque jour que nous passons peut alors être comptabilisé comme un de moins à vivre. Au soir d'une belle journée de fête, par exemple, les regrets et la nostalgie peuvent nous serrer le cœur lorsque nous songeons « c'est une belle journée qui se termine, une belle journée qui ne se reproduira plus ». Mais nous pouvons aussi rendre grâce pour une belle journée. Et je pense ici à un chant que certains connaissent peut-être, un chant parfois entonné en début de repas. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en l'adorant, combien le nombre en est grand. » Compter les jours comme on compte les bienfaits de Dieu, ce serait considérer chaque jour comme un trésor, comme un don que nous recevons. Ainsi, apprendre à compter les jours, c'est peut-être découvrir que chaque jour compte, qu'il a de la valeur, que chaque instant est précieux, que l'on peut donner du sens aux tâches les plus quotidiennes. Apprendre la vraie mesure de nos jours, c'est peut-être en retrouver la pleine mesure. Nous arrivons au terme de notre parcours dans les psaumes. Leurs auteurs nous ont laissé entrevoir parfois leur désespoir, leur révolte, leur souffrance. Mais ils nous ont partagé aussi leur confiance et leur espérance, la joie de commencer et le courage de persévérer. Le chant des psaumes a traversé les siècles, mais c'est un chant toujours neuf, à chacune et chacun d'en donner son interprétation et de le chanter chaque jour à nouveau. Nous écouterons, pour clore cette série de méditations de carême, le psaume 96, « Chantez à Dieu, chanson nouvelle », par le Concert des Planètes, dans une version de Théodore de Bèze et Goudimel.
Chantez à Dieu.
Ainsi s'achève cette sixième et dernière conférence du carême protestant avec Christine Renoir, pasteur de l'Église protestante unie de France, et aumônier coordinateur à la Fondation Diaconesse de Reuilly. Vous pouvez retrouver plus d'informations et le texte de l'émission sur le site carême-protestant.org. Vous pouvez également écrire au carême protestant au 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site franceculture.fr. Merci à Viviane Noël pour la réalisation et à Éric Boissé pour la prise de son. Merci également à nos lecteurs, Denis Heller et Dominique Fano-Renaudin. Une émission proposée par le Carême protestant et la Fédération protestante de France avec Benjamin Bories. Tout de suite sur France Culture, la suite de vos programmes avec le Carême catholique.